Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Puisqu'on étudie cette lettre de Paul aux Éphésiens, à l'Église qui est à Éphèse, je vous propose un petit exercice que nous faisons avec les étudiants d'Éphèse, notre petite formation biblique, notre école biblique, les samedis matins. Et un des exercices que nous faisons ensemble, nous prenons un passage comme celui qui vient d'être lu, et l'exercice consiste à devoir trouver un mot, un seul mot, pour résumer le passage en question. Un mot-clé ou l'idée-clé qui se trouve, ça permet d'aller au cœur du passage, ça permet de cerner notre pensée, de ne pas être trop vague dans notre compréhension de ce que nous venons de lire, et lorsque nous voulons le transmettre aux autres. Alors, que diriez-vous pour ce passage? Quel mot choisirez-vous, un seul mot, pour résumer tout ce qui vient d'être lu? À vrai dire, il y a une bonne réponse, c'est l'avantage de ce passage, il y a une bonne réponse, et c'est le mot « puissance ». Alors c'est de ça que nous allons parler ce matin, la grande puissance, c'est ce que Paul veut que les chrétiens sachent, qu'elle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, et cette même puissance a été déployée en Christ lorsqu'il a ressuscité des morts, il a établi au-dessus de toutes les autres puissances, il a donné comme chef suprême à l'Église. Donc vous voyez toute la pensée, toute la phrase tourne autour de l'idée de la puissance. Et nous sommes dans une partie de cette lettre où Paul prie pour les chrétiens et qu'il prie qu'ils sachent tout ce qu'ils ont en Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons parlé déjà de l'adoption, de l'héritage, de ces grandes bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Nous les avons, mais le tout, c'est de les reconnaître, de les savoir, de vivre en pleine lumière de ces choses. Alors ici, si on reprend la phrase du début, en verset 17, il veut que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qui nous aide à savoir, afin que vous sachiez, verset 18, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et ce verset 19 est très fort parce que dans une seule phrase, Paul il a bourré sa phrase avec tous les synonymes qui existe en grec pour parler de la force, la puissance, et donc ces mots, vous voyez en verset 19, puissance, efficacité, vertu et force sont tous des synonymes pour parler de la force, de la puissance. En plus, tous ces mots grecs, vous les connaissez déjà, même sans avoir fait les cours de grec avec Gilbert. Le mot pour puissance en grec, c'est dynamis. Le mot pour efficacité, c'est energia. Le mot pour force, c'est kratos, ce qu'on utilise dans les mots comme démocratie, aristocratie, c'est force, domination, règne. Donc, nous puissions savoir quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec énergie par la force de sa puissance. On pourrait le traduire aussi ainsi. Presque. C'est de ça que nous allons parler ce matin, pour voir cette puissance. Nous allons parler tout d'abord du besoin, le besoin de cette puissance, ensuite la preuve de sa puissance, en troisième la nature de sa puissance et enfin l'efficacité de sa puissance. Voyons tout d'abord le besoin de puissance. Comme vous savez, c'est une évidence, je pense pour tous, il faut de l'énergie pour tout dans la vie, pour chauffer une maison, pour courir 10 km. Pour déplacer une voiture, pour allumer une lumière, pour envoyer un satellite dans l'espace, pour transformer un gland dans un chêne, il faut de l'énergie. Tout ce qui bouge finalement, tout ce qui a vie, tout ce qui vit, tout ce qui fonctionne, a besoin d'énergie, a besoin de force, de puissance, ça on le sait. En tout cas, la facture EDF est souvent là pour nous rappeler que cette énergie n'est pas innée, n'est pas inhérente, mais il faut le produire, il faut l'acheminer, il en faut pour que tout fonctionne. Et on pourrait dire que dans le domaine moral, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Il faut de l'énergie spirituelle, il faut de l'énergie divine pour toute la vie chrétienne, pour croire, pour comprendre l'évangile. Il faut de l'énergie, de la force pour obéir, comme vous le savez souvent, pour résister à la tentation. Et il faut de l'énergie pour prier comme il faudrait. Il faut de l'énergie pour servir Dieu. Il faut la force pour partir à Albi et Carmo et servir. Je pense notamment à nos deux jeunes qui apportent la prédication, Jocelyn et Kevin. Et voilà, ils ont besoin de puissance, de la force de Dieu pour faire ça. Alors, comme vous savez, une prière typique dans la Bible, c'est justement, on prie d'être fortifié, on prie pour d'autres qui soient fortifiés. Et c'est bien. On est très conscient parfois qu'il faut des forces qui ne viennent pas de nous-mêmes pour tenir bon à travers une épreuve, comme Stéphane et Solange viennent d'en témoigner. On est souvent conscient, je pense, qu'il faudrait une puissance surnaturelle pour répondre avec amour et patience, peut-être à un collègue au travail. Il faut une force qui ne vienne pas de nous-mêmes parfois pour aimer un conjoint. Il faut une puissance parfois pour annoncer l'évangile avec courage, avec clarté à notre entourage. Donc il est évident qu'il nous faut de l'énergie spirituelle, de l'énergie divine pour vivre notre vie devant Dieu. Et Paul, c'est ce qu'il va souvent rappeler aux Éphésiens, et c'est son souhait, sa prière pour eux qui mesure cette puissance. Il en parle déjà dans sa vie un peu plus tard, dans le chapitre 3. Si vous regardez ces versets, versets 7 et 8, il parle un peu de son histoire, de son témoignage, de son appel à être apôtre. Et il dit en chapitre 3, verset 7, « L'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensible de Christ. » Pensez à la force, la puissance nécessaire pour transformer un persécuteur d'église comme l'a été Paul, à un apôtre qui annonçait l'évangile avec force, avec pertinence dans son entourage. Il fallait la puissance, il était au courant que ce ministère lui a été accordé par l'efficacité de la puissance de Dieu. Dans le même chapitre, un peu plus tard, il prie pour les chrétiens encore. Verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Donc, évidemment, on a besoin d'une puissance pour vivre pour l'homme intérieur, pour qu'il vive sa foi. Et on a besoin de cette énergie de manière illimitée, de manière constante. Comme vous savez, l'énergie se perd, se dissipe si on ne le maintient pas. Vous mettez une tasse de café bien chaud, vous partez faire autre chose, et puis vous revenez et c'est froid. Alors, heureusement, il y a le micro-ondes, et puis on rechauffe. Parfois, je chauffe le même tasse de café 5 fois dans la matinée. Si vous ne faites jamais le plein de la voiture, à un moment, elle ne roule plus. Il faut une énergie renouvelée, constante. Telle est notre vie spirituelle, notre vie avec Dieu. Si vous mettez un chrétien là et que vous lui coupez des ressources divines de Dieu, si vous lui enlevez ses promesses, eh bien évidemment, ça va plus fonctionner, ça va plus vivre. La machine à mouvement perpétuel n'existe pas. C'est un exercice pour les mathématiciens, les scientifiques. Sur le papier, c'est facile à dessiner, hein, à concevoir une machine qu'une fois lancée, continue à l'infini. Mais ils n'arrivent pas à l'inventer dans la pratique. Ça, à un moment, ça s'arrête, parce qu'il faut réinjecter l'énergie. Tout parent qui doit pousser un enfant sur un balançoire le sait aussi. À un moment, on aimerait bien le pousser et puis partir. Mais non, papa, ça fait deux ou trois fois, et après il faut voilà, là, on a besoin, nous, dans notre vie chrétienne, de cette énergie, de cette force, de cette puissance constante. En plus, il y a des facteurs qui augmentent ou qui aggravent notre besoin. Notamment, il y a une faiblesse innée dans la condition humaine. Dieu sait que nous sommes faits de poussière. Notre énergie, notre dynamisme spirituel n'est pas toujours au top. Et ça peut être facilement affecté, non juste pour des raisons spirituelles, mais aussi des raisons physiques. Notre santé, notre fatigue physique, nos circonstances, nos humeurs fluctuantes peuvent aussi affecter notre énergie spirituelle. Donc on a besoin de la force de Dieu. Et en plus de tout ça, et c'est là où ça va vraiment parler aux Éphésiens, en plus de tout ça, il y a la présence des puissances spirituelles qui sont contre Dieu, contre son peuple, contre les chrétiens, qui agissent pour le mal, et donc qui augmentent notre besoin d'une force, d'une puissance. Le monde n'est pas neutre, comme vous le savez. Et notamment à Éphèse, la ville d'Éphèse était très, très attachée à la magie pour pouvoir un peu naviguer à travers de toutes ces puissances spirituelles, les idoles, les faux dieux, la quantité de dieux qu'ils avaient, qu'ils croyaient, nécessitait selon eux toutes sortes de rites, de formules magiques. Donc la ville d'Éphèse était réputée, très connue, c'était un peu un centre mondial pour les formules magiques qui pouvaient aider à un peu gérer et dompter les puissances autour de nous. Si c'était à l'époque, Harry Potter aurait fait ses études à l'école des sorciers à Éphèse. Et ils étaient très connus pour ces formules magiques. Et des gens avaient recours en essayant, ils avaient une grande peur quand même de toutes ces puissances spirituelles, ces dominations, et ils essayaient de gérer ça tant bien que mal avec toutes sortes de formules magiques, de livres magiques. Alors, vous comprenez quand Paul encourage les chrétiens qui vivent dans cette ville d'Éphèse, il dit, ils veulent qu'ils sachent quelle est envers eux la grande puissance de Dieu, sans avoir besoin de toutes ces formules magiques. Ils ont, dans la personne de Dieu et de Jésus-Christ, une puissance qui dépasse tout ça. Et donc, il les encourage ainsi. Donc, vous voyez notre besoin de puissance, de force spirituelle pour vivre la vie chrétienne. Voyons maintenant la preuve que nous avons que cette puissance est grande et qu'elle est à notre disposition. C'est le verset suivant, verset 20. Paul veut rappeler aux chrétiens qu'ils ont accès à une puissance infiniment grande. Et la preuve de cette force, la preuve de ce que Dieu en est capable, c'est la résurrection de Jésus-Christ et ensuite son ascension. Donc verset 20, il a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alors j'ai eu une pensée en préparant ce message en me disant que si je parle de la résurrection ce matin, c'est comme si je vais vendre la mèche ou dévoiler l'intrigue avant dimanche prochain. Mais ça a été déjà fait dans nos chants et dans les réflexions ce matin. En plus, vous connaissez un beau message de la foi chrétienne. Chaque dimanche, chaque jour, le chrétien, nous célébrons finalement la résurrection et tout ce qu'elle représente pour nous. Mais pensez à la force, la puissance nécessaire pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Combien de kilowatts fallait-il? Mais ça se mesure même pas en kilowatts. Quelle puissance spirituelle fallait-il pour ressusciter de Jésus? Même aujourd'hui en France, sans être comme une ville d'Éphèse, on a quand même tout notre attachement à la voyance, à la magie. On va aller consulter ces personnes pour aussi avoir une aide, un soutien, un appui dans la vie. Le monde païen en tout cas. Mais même eux, éventuellement, ils vous proposent de consulter des morts, mais ils vous proposent jamais de ressusciter des morts. Donc Dieu l'a fait pour prouver sa puissance. Et on aime dire parfois que la croix, oui, c'est la meilleure démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Et la résurrection est la meilleure démonstration de sa puissance.
Bien sûr, il y a aussi de la puissance à la croix, il y a aussi la grâce à la résurrection, mais la résurrection dans la Bible fonctionne vraiment pour témoigner, illustrer toute la puissance dont Dieu est capable. Et Paul dit que cette même puissance qui a ressuscité Jésus, cette même puissance est à l'œuvre dans la vie du chrétien. Retenez cette pensée pour vos vies. Si Dieu peut ressusciter Jésus, il peut me fortifier à travers telle ou telle circonstance. Ce que Paul veut que vous sachiez, si Dieu peut ressusciter Jésus, Dieu peut me faire traverser cette circonstance. Et c'est pour ça que c'est important ce que nous faisons cette semaine, la célébration de Pâques, pour nous rappeler que Dieu est ce Dieu vivant, il a ressuscité Jésus, et il peut nous porter aussi. C'est la preuve qu'il est actif, agissant, capable dans nos vies. Non seulement par la résurrection, mais la preuve aussi, c'est par ce qu'on appelle l'ascension, décrite dans les versets 20 à 23, où il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, donc il y a une ascension dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Quand il parle de ses puissances, ses dominations, ses dignités, il a en tête surtout les puissances hostiles à Dieu, dont connaissaient les Éphésiens assez bien autour d'eux, les démons, les faux dieux, les idoles, toutes ces puissances qui étaient le quotidien de ces Éphésiens. Et Paul rappelle que Jésus-Christ est au-dessus de tout ça, il a toute autorité sur ces personnes, toute puissance sur ces puissances, il est plus fort, plus grand. Et c'est ce que Dieu a prouvé, a montré lorsqu'il a ressuscité, et puis il a fait asseoir sur un trône, c'est une image royale, une image de règne, de domination, pour montrer que Jésus est au-dessus de tout ça. Et cela, en tant que chrétien, nous donne une nouvelle vision des puissances invisibles, spirituelles, contraires au reste de ce que ce monde vit et pense. D'un côté, nous les ignorons pas, nous savons qu'elles existent, nous savons qu'elles sont là, nous savons qu'il y a une force du mal, donc nous ne les ignorons pas, mais en même temps, nous ne les craignons pas, nous ne les voyons pas à tout coin de rue, nous n'en faisons pas la chasse toute la journée, nous ne sommes pas superstitieux quant à leur présence dans le monde. Et ce que les Éphésiens eux-mêmes ont vécu, lorsque Paul est venu annoncer l'évangile à Éphèse, on nous raconte ça dans Actes chapitre 19, qu'ils étaient habitués à toutes ces formules magiques pour gérer ces puissances spirituelles, et à un moment, quand ils ont compris l'évangile, ils ont brûlé tous leurs livres magiques, ils n'avaient plus besoin. Et on dit que même la valeur des livres brûlés, c'était 50 000 pièces d'argent. En euros, c'est des millions d'euros de livres brûlés, parce qu'ils n'avaient plus besoin de gérer ces puissances spirituelles. Ils avaient la preuve que Jésus était plus fort, ils n'avaient plus à s'inquiéter de ces choses. Et donc, en tant que chrétiens, nous voulons accepter ce que cette vision, cette preuve de puissance, cette rassurance que cela nous donne. Nous n'ignorons pas leur présence dans le monde, mais nous ne les chassons pas, nous ne les craignons pas. Ils sont désormais, ils sont dépouillés déjà par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Pourquoi ils sont désarmés? Pourquoi ils ne peuvent plus rien contre nous, contre les enfants de Dieu? C'est parce que Dieu a géré ça par la mort et la résurrection de Jésus. La seule chose qui leur donne une certaine force à ces puissances spirituelles, c'est de pouvoir nous accuser à raison. C'était de pouvoir nous garder esclaves du péché. C'était de pouvoir exploiter notre peur de la mort et nous faire tourner vers les idoles. Mais Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a défait tout ça, il a désarmé tout ça. Donc maintenant, il ne peut plus nous accuser à raison. Leurs accusations, c'est des accusations à tort et Jésus nous défend. Ils ne peuvent plus nous garder esclaves du péché parce que Jésus nous a libérés. Et les choses par lesquelles il voulait nous séduire, les choses par lesquelles il nous mentait, maintenant nous voyons clair parce que Jésus nous a pardonné. Il ne peut plus nous exploiter la peur de mourir, notre peur de la mort, parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, comme dit Hébreux, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc toutes les manières qu'ils avaient pour nous séduire, sont inefficaces lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Et donc voilà la preuve de la grande puissance de Dieu, plus grande que tout. Il a ressuscité Jésus, il a fait asseoir au-dessus de toute chose. Mais maintenant, j'aimerais voir un peu plus loin la nature de cette puissance, la nature de la force de Dieu, la manière que cela agit dans nos vies. Comment est cette puissance? Comment fonctionne-t-elle? Et on a un indice, l'indice est que cette puissance a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette force, c'est une force qui ressuscite des morts. Cette force, c'est une force qui agit dans un tombeau. C'est une force qui agit au sein des situations perdues, tragiques, tristes. Ce n'est pas une force qui forcément les empêche, mais c'est une force qui les transforme et qui en sort quelque chose d'encore plus beau, plus victorieux. C'est ça qui est frappant. Dieu, dans sa puissance, il aurait pu empêcher la mort de Jésus. Est-ce que ça aurait été une plus grande puissance d'empêcher la mort de Jésus ou de ne pas empêcher et puis de le ressusciter d'entre les morts? Posez-vous la question. Et donc, la nature de cette puissance, c'était une puissance sage qui ne se manifeste pas toujours à la manière que nous, on s'attendrait. De temps en temps, on a eu un aperçu de la puissance de Jésus-Christ, qui était la puissance de Dieu. Et à un moment, nous allons y penser cette semaine, dans le jardin de Gethsémané, Jésus a simplement conjugué le verbe « être » aux premières personnes singulières, et toutes les personnes sont tombées à l'inverse. « Je suis »,« ego emi » en grec, en prenant ainsi le nom de Dieu. Donc, une simple parole, deux mots, tout le monde tombe à l'inverse, il était le Tout-Puissant, il était Dieu. Mais ça, c'était un aperçu. Après, il a dit non, on ne va pas suivre cette voie-là, on ne va pas dévoiler, ma puissance n'est pas de cette nature-là, à juste bouleverser tout le monde. Sa puissance aussi est une puissance qui s'est manifestée dans la faiblesse, sa puissance est cette force d'aller jusqu'à la croix et de souffrir et de mourir pour ensuite être ressuscité. Telle est la nature de la puissance de Dieu. Et puis ça va s'appliquer dans nos vies, dans la vie du chrétien aussi. Paul, c'est quand même frappant, il veut encourager les chrétiens à Éphèse en parlant de la puissance. Quelle est envers nous la grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance? Et le voilà en prison, en train de dire ces choses. Alors quelqu'un pourrait dire, mais c'est bien beau de parler de la puissance, Paul, mais elle ne s'applique pas dans ta vie, parce que tu es coincé dans une prison, impuissant contre les autorités romaines qui t'ont lié là. Mais c'est pas ça la nature de la puissance de Dieu. La nature de la puissance, c'est de garder Paul dans son prison et de l'utiliser à sa gloire. Donc la force que Paul a en tête, qui se manifeste dans nos vies, n'est pas une force qui nous empêche forcément d'être emprisonnés, qui nous empêche d'être éprouvés, mais c'est une force et une puissance qui nous accompagne, qui nous soutient. C'est une puissance qui a permis Paul d'écrire ses paroles, ses lettres à ses chrétiens à Éphèse. Malgré son état, c'est une force qui a permis à Paul d'être joyeux, confiant, malgré ses circonstances extérieures. Donc vous voyez que c'est une puissance d'une nature particulière. Ce n'est pas une puissance qui empêche toujours les mauvaises choses, mais c'est une puissance qui donne vie, qui ressuscite à travers ces choses pour une plus grande gloire. Et ça c'est magnifique et c'est bien à savoir. Et enfin, après avoir vu donc le besoin de puissance dans notre vie, la preuve de cette puissance qui est la résurrection, la nature de cette puissance qui agit même dans des situations tristes et tragiques, voyons maintenant l'efficacité de sa puissance. C'est ce qu'il veut savoir, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc Paul prie que nous sachions quelle est l'efficacité de cette puissance qui agit en nous. Et déjà, c'est fort, il ne prie pas que ces Éphésiens reçoivent une puissance, mais il prie qu'ils sachent quelle est la puissance qu'ils ont déjà, qui est déjà à l'œuvre en eux, qui agit envers eux, qui croient. C'est toujours fort de voir le contenu des prières de Paul. Il ne il ne prie pas qu'il sorte de sa prison, il ne prie pas pour que Dieu arrange toute leur situation, mais il prie qu'il sache toutes ces choses, notamment quelle est la puissance qui est déjà à l'œuvre dans leur vie et qui le sera pendant toute leur vie chrétienne. Maintenant, comme vous savez, tout doit avoir un classement énergétique. De A à G, je crois. Alors, comment classez-vous la puissance de Dieu? Plus précisément, comment classez-vous la puissance de Dieu dans la vie de l'EBTN? Quel classement énergétique? Efficace ou pas efficace? Pensez à l'année que nous venons de vivre, aux choses que nous avons traversées en tant que famille de Dieu. A, B, C, D, E, F, G. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes de puissance? Non, la puissance de Dieu est 100% efficace. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gaspillage. C'est une efficacité totale, 100%. C'est pas comme s'il y avait un risque que ça n'ait pas marché. Dieu est tout puissant, donc les choses qu'il entreprend dans notre vie, il le fait toujours avec sa toute puissance. Ceux qui font de l'haltérophilie, vous savez, soulever les poids, cette discipline olympique. Mais à un moment, en tout cas pour gagner, il faut bien que quelqu'un n'arrive pas à soulever son poids. Ce serait mon cas, on met les mains sur la barre et puis on fait un effort et ça ne bouge pas du tout. Est-ce que vous avez une image de Dieu qui est un peu comme ça? Il veut s'occuper de nos vies, il veut s'occuper de l'Église en France et puis il aimerait bien la soulever, mais ça ne bouge pas parce qu'il y a tellement de positions, tellement de problèmes, tellement de... Mais non, c'est pas comme ça. Dieu n'est pas lié par ces choses. Le verset dit qu'il a tout mis sous le pied de Jésus-Christ. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église est son corps. Il sait le faire vivre, il sait le faire bouger, il sait le faire fonctionner comme il faudrait. Il y a une belle image encore, il dit que Jésus est la tête de l'Église, puis il parle du corps qui est l'Église, et puis il dit qu'il a tout mis sous les pieds de Jésus. Si on met les images ensemble, c'est Jésus est la tête, et le corps c'est l'Église. Quand il dit qu'il a mis tout sous ses pieds, c'est nous participons à cette victoire. Comme Paul l'avait dit aux Romains, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et ça, on peut saisir cette promesse. Aucun problème, aucun adversaire, aucune situation sera plus forte que l'Église de Jésus-Christ. Si la tête est ressuscitée, le corps est ressuscité aussi. Et si Dieu met tout sous les pieds de Jésus, et si nous faisons partie du corps de Jésus, nous bénéficions de cette promesse aussi. Nous voyons l'efficacité de sa puissance. Le corps qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, et c'est déjà la preuve de l'efficacité de sa puissance, c'est qu'aujourd'hui il y a l'Église qui est dans le monde entier, les chrétiens qui vivent leur foi dans le monde entier, malgré 2000 ans d'opposition, d'incrédulité, de difficulté, voilà une Église qui remplit le monde déjà, en quelque sorte, par sa présence partout. Donc ce verset est déjà en train de s'accomplir. Le corps de Christ, qui est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, on peut déjà dire que Jésus est rempli le monde par son Église, et comme nous avons vu une autre fois, un de ces jours, tout sera réuni en Christ, tout sera autour de sa présence, et sa gloire va remplir le monde entier, de sorte que cette promesse prenne son plein accomplissement un jour. Mais ça, c'est l'efficacité de sa puissance, rien ne va entraver ce programme ou ce projet. Dieu a toute puissance, toute force nécessaire pour l'accomplir. Et cette force agit en vous. Donc, soyez rassurés, la puissance de Dieu est efficace dans votre vie. Il n'y a pas de perte, pas de perte d'énergie. Il le déploie en vous. Et c'est une raison que vous êtes là ce matin et que vous continuez à croire, que vous continuez à aimer vos frères et sœurs, que vous continuez à espérer en lui. C'est parce que Dieu agit envers vous avec puissance. Et c'est la bonne nouvelle. Dans les notices des appareils, il y a une partie dépannage quand ça ne marche pas. Et la première chose qu'ils disent, que j'ai toujours trouvé d'une inutilité extrême, c'était vérifier le branchement. Mais oui, évidemment, hein, tout le monde a déjà branché, je veux savoir pourquoi ça ne marche pas. Je vois bien que c'est branché, mais en tout cas, ils vous disent ça, et parfois c'est pas bête, vérifier le branchement. Je vous laisse avec cette pensée, c'est peut-être une pensée bête, mais vérifier le branchement. La foi, c'est être connecté à Dieu. Ce sera dommage de vivre toute sa vie en panne de cette énergie spirituelle, simplement parce qu'on n'a pas fait le branchement. Le premier, c'est que cette puissance est envers nous qui croyons. Donc, c'est par la foi que nous avons accès à cette puissance. Cette puissance active notre foi. C'est Dieu par sa puissance qui branche, qui met l'interrupteur. Mais voilà, il nous interpelle tous à vérifier si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, on se tourne vers lui. Et par la foi, on lui demande de mettre toute sa puissance, toute sa énergie en nous. Il nous ressuscite, il nous donne la vie par Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous donne accès à ces belles promesses.